Réplique, être juif dans le monde d'aujourd'hui, avec Rony Broman et Bernard-Henri Lévy. Hitler a déshonoré l'antisémitisme, écrivait Bernanos au lendemain de la guerre. Cette phrase est choquante, car elle laisse entendre qu'à un moment donné de sa très longue histoire, l'antisémitisme a pu être honorable. Mais ce qu'elle dit de vrai, c'est qu'on ne pouvait plus être antisémite après Hitler avec la même innocence, la même assurance, le même aplomb qu'avant. Cette haine désormais faisait honte. Aussi, les enfants juifs du baby-boom et les enfants de ces enfants en ont-ils été protégés? Ils coulaient des jours heureux ou, s'ils étaient malheureux, c'était pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme. On pouvait raisonnablement penser que cette vision du monde était chose du passé, qu'elle ne se relèverait jamais de l'apocalypse hitlérienne. Je le pensais moi-même. Mais les choses ont changé. Les élèves juifs sont de plus en plus nombreux à quitter l'enseignement public. Dieudonné et Alain Soral font avec leur théorie complotiste et leur négationnisme militant un carton sur la toile. Les actes anti-juifs sont en progression constante et la France est devenue le premier pays d'immigration vers Israël. D'où la question que j'adresse sans tarder à Rony Broman et à Bernard-Henri Lévy. Que se passe-t-il? Peut-on dire que la brève parenthèse du déshonneur de l'antisémitisme se ferme et qu'être juif, dans la France de 2016, c'est être de nouveau exposé, avec ou sans kippa, à rencontrer la haine? Bernard-Henri Lévy.
J'arrive là à l'instant de Marseille, où j'étais hier soir, et où, comme vous le savez, il y a quelques semaines, un professeur a été victime d'une tentative d'assassinat à la machette parce qu'il portait une kippa. Et il a été sauvé d'ailleurs par le fait qu'il portait aussi une Torah, une grosse Torah qui lui a permis d'éloigner les coups de la machette. Cette phrase de Bernanos, qui n'est pas tout à fait après la guerre d'ailleurs, qui date je crois de mai 44, c'est en effet une phrase terrible pour la raison que vous avez dite, parce qu'elle suppose que l'antisémitisme ait pu avoir un honneur. Mais au fond, ça a toujours été le cas de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est une machine de haine qui a toujours essayé de trouver un honneur à sa haine. Jamais l'antisémite n'a proféré une haine brute et sans mots, sauf peut-être des marginaux, de purs assassins. Mais l'antisémitisme de masse a toujours tenté de donner un caractère honorable. Alors le caractère honorable, c'était de venger le meurtre du Christ. Le caractère honorable, c'était d'installer dans leur état, dans leur triomphe définitif, les lumières que le judaïsme continuait d'éclipser de son ombre obscurantiste. L'honneur, c'était l'anticapitalisme, au fond. Les gens de l'affaire Dreyfus, les antisémites de l'époque de l'affaire Dreyfus, ils pensaient eux aussi que l'antisémitisme avait un honneur. Bref. Il y a toujours eu, c'est pour ça que ce mot de Bernanos est atroce, mais qu'il a une part de vérité, il y a toujours eu cet effort-là. Et aujourd'hui, moi je ne crois pas du tout à la parenthèse, je crois que depuis une trentaine d'années, l'antisémitisme est en train de tenter de se redonner une nouvelle forme de légitimité, une nouvelle manière de se proférer en ayant l'air honorable, et cette nouvelle manière, c'est la haine d'Israël, c'est l'antisionisme. C'est de dire « j'ai rien contre les Juifs », ils ne sont plus coupables ni d'avoir tué le Christ, ni de l'avoir inventé, ni de rien de tout ça. Ils sont juste complices d'un État illégitime, assassin, trafiquant de mémoire, et ainsi de suite. Et donc, la façon qu'a l'antisémitisme de redevenir discible, et par conséquent, ce qu'à Dieu ne plaise, mais peut-être de redevenir un jour un mouvement de masse qu'il n'est pas encore, c'est de se couler dans la rhétorique de ce qu'on appelle couramment l'antisionisme. Pourquoi dans mon livre, je démontre, je crois que l'antisémitisme sera antisioniste ou ne sera pas.
Avant de donner la parole à Rony Broman, je voudrais vous poser une question sur cet antisionisme. est-ce que ça ne signifie pas aussi que ceux qui aujourd'hui propagent cet antisémitisme sont différents des antisémites de la première moitié du XXe siècle, de ceux que vous avez, Bernard-Henri Lévy, décrit dans l'idéologie française? D'abord parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils habitent dans les territoires perdus de la République, et que ceux qui soutiennent ces habitants sont plutôt des gens de gauche, des gens qui se veulent progressistes et qui dénoncent à travers l'antisionisme non pas les juifs comme une race maudite, mais le racisme d'Israël et plus généralement de ceux qui en France sont attachés à Israël. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce changement de paysage et de sujet de l'antisémitisme?
Non, parce que je crois qu'il en a toujours été de même. Vous dites que les antisémites d'aujourd'hui sont plutôt de gauche que de droite. D'abord, c'est pas tout à fait exact. Ça vient des deux bords. Et le propre de l'antisémitisme est de faire le court-circuit. Mais surtout, ça a toujours été comme ça. L'antisémitisme de l'époque de l'affaire Dreyfus, est-ce qu'il était plus de droite que de gauche? L'époque des années 30 et de ce qu'on appelait en Allemagne les sections beefsteak, rouge dedans, brune dehors, c'est-à-dire l'infiltration des SS par les gens du Parti communiste, est-ce que c'était de gauche ou est-ce que c'était de droite? Non, je pense que bien sûr la forme a changé, mais le paradigme reste le même, un système de justification qui fait que des femmes et des hommes venus de tous les bords, venus de la gauche comme de la droite, se retrouvent dans cette passion étrange, folle et horrible, qui fait un peu religion même, et qui est la religion antisémite.
Oui, Bromain.
Moi non plus, je n'ai jamais cru à cette parenthèse. L'idée que le nazisme aurait, d'une certaine manière, mis un terme aux passions antisémites, à leur possibilité même, ne m'a jamais effleuré.
Excusez-moi, je vous interromps pour vous poursuivre. On peut dire quand même que nous avons vécu dans cette parenthèse. Nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas été élevés dans une France où l'antisémitisme était là, virulent, convulsif, où il avait pignon sur rue.
Non,
enfin, cette parenthèse, nous n'y croyons pas, mais nous en avons été d'une certaine manière un peu bénéficiaires.
Non, mais ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existait plus. Il s'exprimait, par exemple, dans les années 50 à l'Assemblée nationale, ouvertement, avec Poujade, Le Pen, lors de ses élections en 56, en particulier contre Mendès France, en effet, et ces expressions antisémites publiques au sein même de la représentation nationale ne sont plus pensables aujourd'hui. Donc il y a eu certes des mutations, des transformations, mais je pense que on ne peut pas dire que l'antisémitisme, d'ailleurs malheureusement, comme toutes les formes de racisme, de haine, de l'altérité, ait vu son cours se terminer avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc sur ce point-là, au moins, je rejoins Bernard-Henri Lévy. Plus généralement d'ailleurs, on peut dire que on n'a jamais voulu le mal pour le mal. Lorsqu'on a fait du mal, c'était toujours pour un bien supposé, naturellement. Mais c'est pour un bien. Les hommes sont ainsi faits qu'ils ne veulent pas commettre le mal en sachant et en revendiquant celui-ci comme étant un mal. Et l'antisémitisme étant un mal, eh bien, il faut bien entendu le déguiser, le justifier, lui donner une certaine légitimité. Alors j'en viens maintenant à ce qui peut être un désaccord partiel. Il est partiel parce que, au moins, il n'existe pas sur le fait que le rôle d'Israël est majeur dans le bouillonnement, la fermentation anti-juive à laquelle on assiste aujourd'hui. Elle existe, la question de savoir quel est son niveau. Et il faut tout de même rappeler que pour la majorité, l'immense majorité des juifs en France, la vie est tout de même très agréable, très plaisante dans ce pays, et qu'il faut donc ramener cette question à des proportions qui sont les siennes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer, les méfaits, les saletés, les insanités qui existent, mais il ne faut pas non plus leur donner une portée générale, parce qu'à ce moment-là, on ne comprendra pas ce que nous faisons ici, par exemple, dans une scène un peu qui relève plus de Woody Allen que de l'Allemagne des années 30, tout de même.
Je vous disais disais que j'étais à Marseille hier soir. Ce qui n'est pas Woody Allen, c'est que quand vous parlez dans une grande communauté juive à Marseille, il y a l'armée devant la synagogue, il y a l'armée devant le lieu de réunion. Les lieux juifs, les lieux de prière et les lieux de discussion sont aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, hautement militarisés. Et donc effet, ça c'est pas Woody Allen.
Mais c'est tout de même en rapport avec un terrorisme qui certes a des prolongements en France, mais enfin qui vient d'ailleurs et qui ne représente pas une hostilité partagée à l'intérieur de la société française contre les juifs au point que des agressions physiques se produiraient. Ce sont des attentats qui sont prévenus par cette présence militaire. Il s'agit tout de même, enfin je ne veux pas dissocier l'ensemble, mais je veux
que... Il y a des quartiers à Marseille, des quartiers à Paris où les enfants se feraient agresser, se feraient casser la gueule s'ils ne mettaient pas une casquette sur leur kippa.
En effet, ou au moins se feraient houspiller et insulter.
Oui, frapper.
J'y viens. Justement. Cette question donc de rapport entre être juif et soutenir la politique israélienne, c'est-à-dire soutenir une politique que personnellement j'ai qualifié de raciste, d'installation d'un système d'apartheid qui ne dit pas son nom mais qui se pratique de cette façon-là dans les territoires occupés, cette volonté de disqualifier toute possibilité de discussion au nom, on y reviendra, de différents alibis, cette identification en effet des institutions juives de France, je ne dis pas des juifs de France, mais des institutions juives de France à la politique israélienne, fait que aujourd'hui, lorsqu'on est juif, on est amené à se justifier de la politique israélienne, voire d'en répondre dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles.
Enfin, donc Bernard-Olivier, à l'occasion de vous répondre.
Attends, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que même si aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la proportion de juifs qui soutiennent conditionnellement ou inconditionnellement Israël. Mais le droit de soutenir Israël est un droit imprescriptible. Il ne s'agit évidemment pas de justifier des agressions physiques par des positions pro-israéliennes, même si ces positions, évidemment, on l'a compris, ne sont pas du tout les mêmes.
Oui, mais alors, simplement, avant de donner parole à Bernard-Olivier, si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, eh bien, l'hostilité aux juifs de France peut se déployer dans la langue immaculée de l'antiracisme. Soutien à une politique raciste, donc raciste soi-même, c'est quand même l'accusation la plus grave aujourd'hui, celle qui vous expulse de la communauté des hommes, et l'honneur retrouvé de l'antisémitisme, c'est ça aujourd'hui. Mais l'antisémitisme comme antiracisme, si des pogroms demain, oui, mais vous voyez bien que vous avez des manifestations contre la guerre à Gaza qui dégénèrent en attaques contre les magasins juifs. Alors, est-ce que demain, on n'aura pas des pogroms antiracistes en France?
Le paradoxe est en effet saisissant dans la manière dont vous le présentez. Je réaffirme d'une part que des opinions politiques aussi condamnables soient-elles, et je considère que soutenir la politique israélienne, c'est en effet condamnable, ne doivent pas donner lieu à des agressions, mais à des discussions, à des confrontations politiques, pas à des agressions physiques. Mais moi, ce que j'aimerais entendre de la part des institutions juives, c'est précisément une mise à distance d'elles-mêmes et des juifs de France par rapport à cette politique que je trouve inacceptable, odieuse et agressive.
Ronny Broman, vous dites que le droit de soutenir Israël est un droit imprescriptible. Il ne manquerait plus que ça, que ça ne le soit pas.
C'est pour lever tout malentendu.
En revanche, attendez, ce qui n'est pas un droit imprescriptible, ce qui est interdit par la loi internationale, ce qui est interdit par la Charte des Nations Unies, c'est le fait de révoquer en pensée, en manifestation, l'existence d'Israël.
Ah, pas en pensée, la pensée n'est pas, pas commandée par la loi.
En manifestation, le fait de réclamer, comme cela s'est fait à Sarcelles il y a un an et demi, comme cela se fait dans toute une partie du monde, de réclamer avec insistance la disparition de cet État-là, ça, on n'en a pas le droit. Ça, c'est contraire à la Charte des Nations Unies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites le CRIF, les organisations communautaires, inconditionnellement, je ne sais pas quoi. Pour l'instant, ce qui me frappe surtout dans les organisations communautaires juives françaises, d'abord c'est qu'elles représentent qui veut bien se sentir représenté par elles. Elles ne font pas une
OPA. Les juifs de France, peut-être pas vous non plus,
Moi je suis frappé par deux choses au contraire. La première, c'est une certaine modestie dans la façon dont elles disent qu'elles représentent qui veut bien. Et deuxièmement, ce dont elles sont inconditionnelles, c'est plutôt le contraire. Et tant mieux, Et tant mieux, c'est le contrat républicain français. Ça, je suis très fin. Mais surtout...
Attendez. Vous pensez que le dîner du CRIF représente surtout, le contrat républicain? Ce tribunal où le gouvernement est obligé de se justifier de sa politique au Proche-Orient, ce séminaire sur le conflit israélo-palestinien où comparaissent les ministres, la quasi-totalité du Conseil des ministres,
quand vous trouvez que c'est républicain? Depuis quand est-ce qu'un dîner est un tribunal? Depuis quand est-ce que le président de la République, c'est tout le gouvernement? Où avez-vous vu l'ensemble du gouvernement venir comparaître au dîner du CRIF? Non,
il y a un dîner du CRIF,
comme il y a d'autres circonstances dans la vie de la société.
Aucune autre.
Si,
il n'y a pas
d'équivalent. La rupture de jeûne du Ramadan pour les musulmans, voit le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, et c'est bien, c'est heureux, se rendre à la grande mosquée.
Pour discuter de la politique de la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite.
Rompre le pain avec les musulmans.
C'est purement culturel.
Alors que
le dîner du CRIF est purement politique.
Le dîner du CRIF est un moment de convivialité française.
Un scandale républicain.
Je pense que c'est en rapport direct avec notre sujet. Cette histoire de racisme et d'apartheid, parce que ça, en revanche, je l'ai entendu et je ne veux pas le laisser passer. Israël, état d'apartheid, Israël, état raciste. Ben ça, je trouve que c'est idiot de dire cela. Je pense qu'Israël est un état anti-raciste. Je ne connais pas une autre démocratie où la minorité, en l'occurrence arabe, est à ce point représentée au Parlement par un si grand nombre de députés. Je ne connais pas un autre cas où 20% de la population peut, lorsque le pays est en guerre, dire haut et fort, sans être inquiété, qu'elle se sent solidaire de l'ennemi du moment. Il y a des villes arabes en Israël, et c'est à l'honneur d'Israël, où l'on dit, au moment des deux guerres de Gaza, au moment de la guerre du Liban, en 2006, que l'on prend parti pour l'adversaire. Est-ce que c'est ça un état d'apartheid? Est-ce qu'il y a eu pour autant une suspension des droits et de la démocratie? On a une discussion aujourd'hui en France sur la question de l'état d'urgence. On est face à un état de guerre depuis quelques mois et on a les oreilles pleines de cette affaire d'état d'urgence. Israël, c'est un pays. Il ne s'agit pas d'être inconditionnel de tel ou tel gouvernement. C'est un fait qui vit en état d'urgence depuis 68 ans. 68 ans. Pas 6 jours, pas 6 mois. Et qui, pour autant, n'a jamais suspendu les libertés publiques qui font le contrat social démocratique. Donc je ne vous permets pas de parler d'apartheid ou de parler d'un état raciste, ni même de dire que c'est au nom de l'antiracisme que l'on viendrait justifier. Ça, je m'adresse à Alain Finkielkraut.
Oui, mais c'est ce qui se dit. Moi, voilà. je suis en désaccord total.
Je ne connais pas de pays plus multiethnique qu'Israël. Je ne connais pas un autre pays où sont venus des Polonais, des Libyens, des Russes, des Européens, des Américains, des Éthiopiens, et de tout ça, en une nuit, comme dans le contrat social de Rousseau, on a fabriqué une démocratie qui a marché à peu près. S'il y a bien un modèle de multiethnicité qui réussit, et vous le savez, vous connaissez Israël aussi bien que moi, si vous étiez de bonne foi, c'est Israël.
Ronny Bormann.
Le problème, quand on discute avec Bernard-Henri Lévy, c'est qu'on a l'impression de discuter avec un dignitaire communiste au beau temps des lettres françaises dans les années 50, de discuter de l'Union soviétique. C'est-à-dire un pays sublime, un désert de rocailles qui a été transformé en verger, un modèle de démocratie, la pureté des armes. C'est de cela qu'il s'agit dans notre discussion. Alors ça rend la chose un petit peu difficile. Mais Bernard-Henri Lévy ne m'a pas bien écouté. J'ai parlé de l'apartheid dans les territoires occupés. Je n'en ai pas parlé à l'intérieur d'Israël intramuros. Mais peut-être que cette distraction est révélatrice de quelque chose. C'est-à-dire que vous n'arrivez vous-même plus à faire la différence entre les territoires occupés et le Israël, disons, dans la ligne de 67.
De quel apartheid parlez-vous, René
Bromart? De la réalité juridique.
Mahmoud Abbas est le leader de l'autorité palestinienne. Il bénéficie d'une très forte présence internationale. Il y a une expansion économique à Ramallah. Et s'il est vrai aujourd'hui que les Palestiniens ont plus de difficultés à venir travailler en Israël, c'est aussi lié à la deuxième intifada. Si un mur a été élevé entre les Palestiniens et Israël, c'est pour mettre fin aux terrorisme. Donc cette réalité-là, cette réalité d'un pays en guerre, vous ne pouvez pas la nier. Et je crois que même on aurait intérêt à critiquer la politique actuelle israélienne dans les termes qu'elle mérite pour renforcer en Israël le camp de la paix. Et si celui-ci est à ce point affaibli, c'est aussi parce que Israël est l'objet, dans le monde arabo-musulman et de la part d'un certain nombre de Palestiniens, d'une négation radicale. Le Hamas veut la mort d'Israël et le Hamas à Gaza se réjouit lorsque un Palestinien tire à la Kalachnikov sur des Israéliens à Tel Aviv. Cette réalité existe aussi. Or, si vous plaquez sur une réalité comme celle-là le schéma de l'antiracisme, j'ai l'impression que vous caricaturez une situation qui mériterait d'être pensée selon ses propres termes.
Je ne lis pas le conflit israélo-palestinien à travers la grille d'interprétation de l'antiracisme. Je constate que lorsqu'on est palestinien dans les territoires, on n'a aucun droit, et que lorsqu'on est juif israélien dans ces mêmes territoires, on a tous les droits. Ça, il me semble que c'est une réalité objective. C'est, il suffit de se rendre sur place, ce que peut-être vous n'avez pas fait.
Si, enfin,
il suffit de se rendre sur place pour le constater, ce que sont les checkpoints, les arrestations arbitraires, les destructions de maisons, les saisies de territoires. Tout cela, c'est ce qui constitue la vie quotidienne d'un Palestinien en situation d'occupation.
On détruit pas n'importe
quelle maison. Je me souviens d'ailleurs d'une scène, et là c'est pas en Israël, c'est en France que je l'ai vue, une scène à laquelle vous participiez tous les deux. Vous participiez à un débat à Israël 24 News, à I24 News, une chaîne donc francophone basée en Israël. Et devant l'ambassadeur Nissim Zvili, c'était au moment, peut-être que nous y reviendrons, au moment du la veille du vote du Parlement français sur la reconnaissance de l'État palestinien. Vote qui était considéré par un grand nombre de gens comme antisémite, ce qui montre à quel point la notion d'antisémitisme est extensible et sert à instrumentaliser en fait des oppositions politiques. Eh bien Nissim Zvili, qui n'est pas un gauchiste israélien, mais un ancien ambassadeur, notamment de Ehud Barak, vous a pris à partie à un moment en vous rappelant de façon assez véhémente que Israël occupait la Palestine et qu'il serait bon que vous vous souveniez de ce que cela veut dire à la fois pour un pays occupant et pour une population occupée d'être dans cette situation-là. Ce que vous semblez ignorer totalement, car tout de même depuis Oslo, le nombre des colons a doublé, que jour après jour, le territoire occupé par Israël en territoire palestinien s'étend, et cela vous semble totalement étranger à la situation à laquelle on assiste aujourd'hui.
C'était une discussion à trois, je vous le rappelle, il y a eu une discussion entre Bernard-Henri Lévy et moi lors de cette émission que vous rappelez. Passe la parole à Bernard-Henri
Lévy. En effet, vous étiez beaucoup plus modéré que Bernard-Henri Lévy.
Mais peu importe, mais c'était une discussion à trois. Bon. Bernard-Henri Lévy. Bon.
D'abord, je me réjouis, parce que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans votre précédente intervention, si j'ai bien compris. Vous êtes d'accord avec moi concernant Israël intramuros, comme vous dites.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce que l'on entend parfois, que la minorité arabe serait privée de ses droits, qu'il y aurait...
Privée de certains droits, oui.
Qu'il y aurait une citoyenneté de seconde zone.
Non. Il y a une citoyenneté de seconde zone, mais il n'y a pas d'apartheid à l'intérieur d'Israël.
Donc on est, pas d'apartheid, mais citoyenneté de seconde zone.
C'est une réalité.
Pour les gens qui nous écoutent, c'est faux. Les droits civiques, les droits citoyens sont reconnus
l'accès
à égalité.
Les équipements collectifs dans les villes palestiniennes.
Non, mais ça s'appelle pas...
Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Je le sais aussi bien que vous. Et les équipements collectifs dans certaines villes palestiniennes, ça s'appelle le déséquilibre de développement, ça s'appelle la lutte des classes, ça s'appelle la misère, ça s'appelle ce que vous voudrez. Il y a des quartiers peuplés en majorité de juifs en Israël et qui sont aussi mal lotis que les villes arabes dont vous parlez. Mais si on parle sérieusement, si on parle des droits, si on parle des droits civiques, il n'est pas vrai qu'il y ait deux citoyennetés en Israël. Encore une fois, s'il y avait en France le dixième des députés arabes qu'il y a en Israël, ça c'est le premier point. Ensuite, je n'ai jamais dit que le vote de l'État la reconnaissance par un vote de l'État palestinien il y a 6 mois était une histoire antisémite. Je disais juste que c'était un coup porté contre la paix. parce que je dis que toute initiative qui fait comme si il n'y avait qu'un responsable à la situation de blocage où se trouvent les Israéliens et les Palestiniens va contre la paix. Et à l'époque, dans la façon que l'on avait de sommer les parlementaires français de reconnaître sans condition l'État palestinien dans sa forme actuelle, l'impensé de ça, enfin le non-dit, c'était qu'il n'y avait qu'un responsable. C'était Israël. Et cela, par conséquent, est un acte qui allait contre la paix, à laquelle je suis aussi attaché que vous. Et puis enfin, alors vous dites Israël et les territoires, et que c'est dans les territoires qu'il y aura un apartheid. La situation des territoires, je me souviens très bien de ce dialogue avec Nissim Zvili. Croyez-moi, j'en mesure la gravité.
J'en suis pas sûr.
Je sais que si tu as un mauvais esprit, une mauvaise lèpre qui peut corroder à force et qui a peut-être commencé de corroder les vertus de l'État sioniste et de la démocratie israélienne, c'est certain. Mais il faut voir de quoi il s'agit. Il s'agit, c'est même l'une des rares fois dans l'histoire contemporaine où un État, Israël, agressé, qui prend des territoires après une agression, ne les annexe pas et s'oblige à vivre dans... Ben non, en général, quand un pays se fait agresser et qu'il gagne la guerre et qu'il avance, ben il annexe. C'est comme ça que ça se fait dans l'histoire des nations. Israël n'a pas annexé
Jérusalem, n'a pas annexé le Golan.
Annexé Jérusalem, vous parlez un peu vite quand même.
Gaza n'a pas été annexé.
L'annexion est une notion juridique. Je l'utilise à dessein.
Ce sont des territoires disputés, ce sont des territoires... occupés,
le vocabulaire de la droite israélienne
occupés,
que vous empruntez.
Mais ce ne sont pas des territoires annexés par Israël. Aucun gouvernement israélien n'a jamais dit que la Cisjordanie faisait partie intégrante de l'État juif. Donc,
Bernard Lévy, vous n'acceptez même pas le terme de colonie pour parler de ce que vous appelez, vous, les implantations, selon le lexique que la droite israélienne aime bien.
L'implantation peut être une traduction de settlements.
Textes internationaux...
Nous parlons français, que je sache. Colonie et implantation, ça ne veut pas dire la même chose.
Implantation, on peut dire colonie, sauf que colonie, cela voudrait dire que les Israéliens sont là pour rester, et avec un projet colonial.
Maladoumim, les grandes centaines de milliers de personnes sont là de passage.
Je crois que pour l'essentiel, il y a aujourd'hui, dans la conscience israélienne et dans le débat politique israélien, est intégré l'idée que c'est colonies ou ces implantations, dans le cadre d'un traité de paix en bonne et due forme, il faudra les quitter.
C'est pour ça qu'elles augmentent tous les jours.
Peut-être qu'il y a une mauvaise appréciation du rapport de force et qu'il y a des Israéliens qui pensent que c'est en accroissant cette pression-là qu'ils auront une meilleure paix.
J'envie votre foi, Bernard-Henri Lévy.
Enfin, Renny Broman, d'abord, vous parlez de Malé Adoumim. Je veux bien, mais même dans la conférence de Genève, je crois d'ailleurs que Bernard-Henri Lévy a approuvé cette espèce de traité de paix négocié entre des Palestiniens et des Israéliens. Les grandes implantations adossées à la ligne verte étaient annexées par Israël, dont Malé Adoumim, et la paix devait permettre un échange de territoire. Donc, nul ne peut penser qu'en effet, Israël reviendra nécessairement à l'intérieur des frontières de 1967.
Donc, je ne le pense pas non plus.
Vous le regrettez, mais c'est une situation. Mais justement, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt pour sortir de la paralysie où nous sommes aujourd'hui à réfléchir au partage des responsabilités entre les uns et les autres? N'y a-t-il pas parmi les Palestiniens et dans le monde arabo-musulman une espèce d'indignation du fait même de la souveraineté juive en terre d'islam? Cela existe et c'est ce qui motive la radicalité, l'intransigeance d'une grande partie du monde arabe.
Si vous permettez, il y a eu un moment tout de même très triste il y a quelques semaines, au début de ce qu'on appelle la troisième intifada, je n'aime pas ce mot, mais l'intifada des couteaux. Cette phrase de Mahmoud Abbas, qui est un homme estimable et qui a dit, c'est terrible, que les juifs montant sur l'esplanade des mosquées venaient la souiller de leurs pieds sales. C'est terrible cette phrase. Cela veut dire que même chez un homme comme lui, qui est un responsable, quel passé qu'il a eu, mais enfin qui s'en est séparé, peuvent revenir des propos de ce genre qui frappent d'une illégitimité ontologique toute espèce de présence juive dans cette région. C'est à ça qu'Israël
a aussi... L'illégitimité ontologique...
Ah ben si, les pieds sales, mais qu'est-ce que ça veut dire souiller ?
C'est ignoble, c'est ignoble, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Dans le contexte embrasé, incandescent, où... Les insanités les plus abjectes sont le lot quotidien des discours politiques, eh bien celle-ci en fait partie. Il n'aurait pas dû dire cela, comme de l'autre côté, bien d'autres choses n'auraient pas dû être dites, comme la comparaison des Palestiniens de la vermine à des hordes barbares, etc. Donc, contextualisons ce genre de déclarations pour les maintenir à leur niveau exact de signification.
Alors, essayons quand même maintenant de revenir à la situation française. Et là, je me tourne vers Bernard-Henri Lévy. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le 11 janvier est morte définitivement la grande illusion antiraciste qui créait une solidarité de destin entre toutes les victimes de la ségrégation, de la discrimination, de l'exclusion ou de ce que vous avez appelé, dans un livre important, l'idéologie française. Parce que le 11 janvier était un moment d'unité tout à fait extraordinaire, 4 millions de personnes dans les rues, et en même temps, un moment où s'attestait la désunion, la déchirure française. Les habitants des quartiers populaires n'ont pas manifesté, parce qu'ils ne pouvaient pas dire « je suis Charlie », Charlie ayant insulté le prophète, et parce qu'ils ne pouvaient pas dire non plus, c'était l'un des slogans silencieux, « je suis juif », car précisément, les juifs sont perçus dans ces territoires perdus de la République, pour reprendre l'expression de Georges Bensoussan, comme, disons, des ennemis. J'ai ici un livre d'André Husset, « Insurrection en France », sur les banlieues, et il dit « J'ai l'impression que la haine des Juifs, comme d'être supporter d'Arsenal ou écouter NTM, est devenue un critère d'appartenance à l'identité des banlieues. » Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas prendre acte de cette pulvérisation de l'antiracisme, en quelque sorte ?
Non, parce que l'antiracisme n'a jamais été non plus une évidence, parce que l'antiracisme n'a jamais été une fraternité sans ombre, parce que même à l'époque où je parrainais avec d'autres SOS Racisme, il y avait, dans ce que l'on a appelé depuis les territoires perdus de la République, il y avait déjà ce que vous dites là. Donc cette alliance de l'antiracisme et de l'anti-antisémitisme, elle est toujours à construire, plus difficilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais toujours à construire. Ce qui s'est passé le 11 janvier, c'est d'abord que les Juifs se sont sentis rétrospectivement seuls, quand ils ont repensé à l'affaire Ilan Halimi, quand ils ont repensé à l'absence de mobilisation au moment de la tuerie de Toulouse, ils se sont sentis très seuls. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'en effet, peu nombreux ont été les musulmans à descendre dans la rue et à dire, comme en Angleterre, « pas en notre nom ». Mais enfin, peu nombreux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en ait pas eu ? Je ne crois pas. Et est-ce que ça ne veut pas dire que ceux qui sont venus l'ont fait avec un très grand courage ? Je le crois. Donc, moi, je dirais que cette grande alliance-là, elle est difficile, mais elle n'est pas morte. Et en tout cas, il ne faut certainement pas se résoudre à sa dissolution.
René Bourman.
Oui, sur ce plan-là, je suis assez d'accord avec Bernard Lévy. D'ailleurs, enfin, moi, en plus, il se trouve que je n'ai pas manifesté le 11 janvier, je ne parvenais pas à me mobiliser dans une manifestation au cri de « je suis Charlie », même si, je l'ajoute immédiatement, je comprenais, une partie de moi était dans cette manifestation, et une autre y résistait. D'ailleurs, dans ma famille, on a largement manifesté, et ça a été l'occasion d'en discuter. Donc,
j'étais partagé. Votre réticence tenait à ce que vous considériez comme les dessins... ou les caricatures
Oui, l'acharnement
blasphématoire
anti...
Non, pas la question du
blasphème. Moi, je ne sais pas ce qu'est le blasphème, ou en tout cas, j'en ai une autre définition ou une autre perception que ça a été dit. Je pense que le blasphème est sorti de la question de la religion, désigne les sacrés qui sont construits socialement et que on peut en effet en discuter sous ces auspices-là. Mais oui, en effet, je comprends très bien un certain une tristesse, voire même un accablement des Juifs de France, voyant que les attentats contre l'hypercachère, l'attentat contre l'hypercachère était en quelque sorte masqué par l'autre, l'affaire de Toulouse également, et sans doute que cela veut dire quelque chose sur l'évolution des esprits et quelque chose de relativement inquiétant. Sur ce plan, je vous rejoins. Cela étant, il faudrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a eu, par exemple, au moment de l'affaire de Carpentras, à tort ou à raison, peu importe, mais cette immense mobilisation, et ce qu'il en est aujourd'hui, quelles transformations internationales et locales se sont produites, qui ont fait que d'un défilé de plusieurs centaines de milliers de personnes en 90, on est passé à quelque chose de beaucoup plus réduit maintenant.
Mais alors, quand même, une autre nouveauté de notre situation. Alors, je voudrais d'abord citer ici un passage du livre de Gilles Kepel, Passion française, où il analyse l'expansion du salafisme, la réislamisation des beurs, dont il dit qu'il rejette à présent avec horreur ce vocable médiatique, tenu au mieux pour méprisant à leur endroit, au pire pour un complot sioniste destiné à faire fondre comme beurre leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme, touillé par l'Union des étudiants juifs de France. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect de la réalité actuelle, c'est la violence de la haine dont la France elle-même peut être l'objet. Dans ces territoires, l'injure sale français est de plus en plus répandue, presque aussi répandue que l'injure sale juif, et les attentats du 13 novembre l'ont montré. Les gens qui ont été assassinés dans les cafés ou au Bataclan l'ont été en tant que français. Hein, coupable justement de la politique française, des croisades que la France est censée mener, de la laïcité à la française, et en même temps l'organe en ligne du califat a dit que il s'agissait, par la laïcité pour la France, rendre les enfants esclaves du juif corrupteur. C'est comme si tout d'un coup, si une nouvelle solidarité de destin là se manifestait, un nouveau trait d'union entre la France et les Juifs de France, visés les uns et les autres par une hostilité qui prend parfois, évidemment, des formes apocalyptiques avec le califat, mais qui prend aussi des formes plus quotidiennes. Comment tenir compte de cette nouvelle réalité, Bernard-Henri Lévy ?
Sur la solidarité de destin entre les Juifs et la France, ce n'est pas moi qui vous démentirai. Je consacre une grande partie de ce livre à, en effet, la déployer, cette solidarité, dans la longue durée de l'histoire. Depuis Rachi inventant la langue française jusqu'à Bodin fabriquant l'idée moderne de république à partir du modèle du royaume des Hébreux, en passant par les rois de France qu'on noignait et que l'on sacrait au nom de David et de Salomon, jusqu'à Marcel Proust.
C'est une espèce de Drummond à l'envers. C'est la France juive, mais non pas peinte à la façon de Drummond pour la disqualifier, mais au contraire
pour rappeler à tous les Français d'aujourd'hui, en effet, ce qu'ils doivent au judaïsme. Et je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut dire. Il y a, parmi les bâtisseurs de la République française, parmi les bâtisseurs de la culture française et de sa langue, il y a un rôle très éminent qui a été joué.
Je crois qu'on voit là un symptôme de cette espèce de néo-identitarisme.
C'est l'inverse d'un identitarisme, puisque justement.
Une espèce de Jewish pride.
Non, pas de Jewish pride.
Exalté.
Non,
c'est inquiétant. Vous me faites peur.
J'ai passé l'âge. N'ayez pas peur. J'ai passé l'âge des exaltations. Mais en revanche, rappelez en ce moment, à l'époque où un Premier ministre dit « la France sans les Juifs ne serait pas la France », qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?
Et de quoi veut dire que la France sans les autres serait la France aussi ? Est-ce que ce sont les Juifs qui donnent leur identité à la France ?
La France sans les autres, ça veut rien dire. Tel autre et tel autre. Oui, moi, ce qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est en effet Rachi, c'est en effet Jean Bodin, c'est en effet Marcel Proust, etc.
Mais alors, Bernard-Henri Lévy, quand même, est-ce que il n'y a pas un risque là d'auto-célébration ? Quelle place y a-t-il pour la gratitude ? C'est-à-dire, les Juifs doivent aussi à la France, et il y a des aspects du génie français qui, précisément, n'ont rien de juif. Si on se sent français par Montaigne, bon, Montaigne, évidemment, est un cas un peu particulier, mais par Marivaux, par Bonnard,
et par Racine,
etc., par Pascal, et par La Fontaine,
et par les Hébraïsans de Port-Royal.
Et par La Fontaine.
Moi, c'est tout.
Oui, mais vous voyez, donc, il y a aussi tout ce que... Il faudrait une place à la reconnaissance, à la gratitude.
Alors, je ferai un livre un jour sur Boileau et sur La Fontaine. Là, pour le coup, j'ai fait un livre où il est question d'un roi de France qui crée le Collège de France parce qu'il voulait qu'il y ait une chaire d'hébreu en France, parce qu'il pensait que c'était très important qu'il y ait une chaire des grandes chaires de latin, des grandes chaires de grec, mais qu'il n'y aurait pas de France s'il n'y avait pas aussi une chaire d'hébreu. Pardon, je ne dis pas que l'histoire de France se résume à cela, mais je tente de réveiller ce petit fantôme juif qui est présent dans les limbes de l'histoire de France et que je voudrais rendre un peu plus manifeste. C'est le livre que j'ai fait. On peut en faire un autre.
Absolument.
On peut décider de ne pas le lire. On peut trouver que tout ça n'a aucune importance. C'est le livre que j'ai écrit aujourd'hui.
C'est bien, parce que je l'ai lu que je vous ai invité, Bernard Ménévy. Mais j'en reviens à l'actuelle communauté de destin. Et là, je me tourne vers vous, Ronnie Bormann. Les Juifs visés en tant que Juifs, les Français en tant que Français, par un ennemi qui en a à la fois à la France et au judaïsme. N'est-ce pas la spécificité de la situation actuelle?
Écoutez, si vous parlez de Daesh et du terrorisme islamiste de cette sorte-là, alors, il ne faut pas oublier ses autres ennemis, les mécréants, les apostats, les faux musulmans. Le terrain s'élargit considérablement. Donc, bien sûr que dans les circonstances que vous avez décrites, le contrat entre les Juifs et la France, le sionisme et la République, si vous voulez, la judaïté et la République, pardon, se renouent, mais ne rétrécissons pas le champ de leurs objectifs, de leurs cibles explicitement désignées à ces deux-là.
Oui, mais il n'y a pas que Daesh.
Elles sont bien plus larges.
Il y a ce climat nouveau aujourd'hui, ce fait pour l'antisémitisme de devenir dans certaines villes et dans certains quartiers un peu comme l'air qu'on respire. Et là, je cite Smaïn Lahacher, un sociologue algérien, et ce fait aussi que vous êtes français de souche, comme on n'ose plus dire, eh bien, vous pouvez être également malmené. Alors, je pense à cette incroyable phrase de Houellebecq dans Soumission. Tout de même, Myriam, la petite amie du narrateur, en a marre de ce qu'elle vit en France. Elle va, elle fait son alia, comme disent les Juifs, et Houellebecq, ou non, plutôt le narrateur, lui dit « Moi, j'ai pas d'Israël. Moi, j'ai pas d'Israël. » Ça dit bien quelque chose. C'était une phrase inconcevable avant 2015, non ?
Oui, en effet, il se passe des choses. Il y a cette fermentation identitaire qui est bien réelle, mais enfin, elle est tout de même le fait d'une minorité extrêmement contenue. Moi, quand je vous entends dire que des quartiers entiers deviennent, l'air dans des quartiers entiers devient irrespirable, tant il est pollué par la haine des Juifs, moi, je vais dans un certain nombre de quartiers dits difficiles, que Bensoussan décrirait peut-être comme des territoires perdus de la République. J'y vais avec des gens qui savent parfaitement qui je suis, quels sont mes origines, et ce sont plutôt des regards de sympathie, voire de gratitude, que je croise lorsque nous parlons de questions qui nous intéressent mutuellement, à savoir les rapports entre l'islam, la République, les Juifs, la France, le conflit israélo-palestinien, etc. Toutes ces questions-là, dès lors qu'on peut les déployer, les mettre sur la table, sans cette espèce de poids d'une accusation systématique, d'un préjugé inévitable ou d'une sorte de réflexe de légitime défense, comme si on était immédiatement agressé. Bref, lorsqu'on leur peut réellement discuter, eh bien les choses se passent différemment. J'en ai fait l'expérience à de multiples reprises. Donc je demande que cela soit aussi pris en considération, non pas pour contester intégralement les éléments que vous mettiez sur la table, mais pour les mettre à côté de ceci.
Écoutez, très bien, j'en prends acte. Et maintenant, je voudrais aborder une autre question qui se trouve dans votre livre, Bernard-Henri Lévy, L'esprit du judaïsme, que vous publiez, ce que vous appelez la tentation de Ninive. Et vous vous livrez, en effet, à un commentaire, disons, talmudique à votre manière, de ce livre de Jonas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et je demanderai à René Bonman si, à travers ses engagements, il est lui-même, à sa manière, allé à Ninive.
Oui, la tentation de Ninive, ça veut dire déjà, pour reprendre le fil de la conversation, refuser l'identitarisme, refuser le communautarisme et considérer que être juif, ça n'a aucun sens si ce n'est pour aller vers l'autre, si ce n'est pour s'exposer au dehors et si ce n'est pour s'exposer aux nations. La tentation de Ninive, ce chapitre, il commence par en effet un brin de lecture talmudique où je m'interroge sur la raison pour laquelle il est dit dans le Talmud et chez Rashi que la Torah des Juifs, a 70 visages. Elle n'en a pas un, elle n'en a pas 12 comme les 12 tribus d'Israël, mais elle en a 70 comme l'infini en extension, l'universel en extension du nombre des nations. Donc ça veut dire que les valeurs dont le judaïsme est porteur, l'islam en a d'autres, le catholicisme en a d'autres, l'esprit des Lumières et l'athéisme a les siennes. Mais ces valeurs-là, pour moi, elles n'ont de sens que si elles sont mises au travail, si elles sont mises à l'épreuve de l'altérité, du dehors, aussi radical soit-il. Et Ninive, c'est quoi? Ninive, c'est la ville où va le prophète Jonas, qui est le seul prophète à qui il soit demandé d'aller prophétiser, non pas dans un des deux royaumes d'Israël, mais chez l'ennemi, dans la cité du crime, dans la cité la plus hostile à sa patrie, et puis qui résiste beaucoup d'ailleurs, qui s'enfuit sur les flots, qui est avalé par une baleine, c'est une espèce de drame cornélien, cette histoire de Jonas, hein, d'un personnage qui est pris dans des injonctions contradictoires, mais qui finit par y aller. Et je crois que, en effet, cet esprit du judaïsme, c'est là qu'il est à son meilleur, quand il est dans cette exposition au dehors.
Alors Jonas est allé à Ninive, Dieu menaçant à travers lui Ninive de châtiment, mais Jonas en veut à Dieu, si j'ai bien compris, en veut à l'Éternel, de ne pas avoir puni Ninive. Et l'Éternel est obligé de se justifier auprès de Jonas en disant « Mais non, je n'allais pas anéantir toute une ville. » Et donc Dieu fait preuve d'une miséricorde qui exaspère le prophète, si j'ai bien compris.
Oui, parce que le Dieu des Juifs, contrairement aux clichés antisémites, est miséricordieux. Et le véritable reproche que fait Jonas à Dieu, d'ailleurs, c'est pas tellement de les avoir, d'avoir épargné Ninive, c'est un reproche de naïveté. Il pense que l'Éternel s'est fait blouser, c'est-à-dire voilà, qu'il a cru, oui, il a cru à la sincérité du repentir des Ninivites, alors que lui, depuis sa petite colline, au-dessus de la Mossoul d'aujourd'hui et sous son ricin, il voit que ce repentir est insincère. Et il dit, c'est ça les derniers versets du livre de Jonas, « Mais mon Dieu, comme ce Dieu bon est naïf, comment ne voit-il pas ?» qu'il est en train de se faire rouler dans la farine. C'est ça, la farine de Jonas.
Et vous êtes allé en Libye, vous êtes allé en Ukraine, oui, avec la même inquiétude,
oui, et la même
sollicitude.
De me faire rouler, la même inquiétude de me faire rouler dans la farine. Moi, j'ai passé ma vie depuis le Bangladesh, quand j'avais 20 ans, jusqu'à la Libye ou au Kurdistan aujourd'hui, en effet, à essayer d'aller autant que je le pouvais avec mon âme et mon corps, comme l'a fait Ronnie Broman, au-devant de l'autre, oui.
Et alors, vous reconnaissez dans cette image, enfin, dans allégorie,
je respecte l'interprétation.
Est-ce que vous êtes allé à Ninive vous-même avec
je
Médecins sans frontières.
Cette aspiration prophétique que semble éprouver Bernard-Henri Lévy, je ne me situe pas à ce niveau-là, et j'ai jamais eu de visée, disons, rédemptrice, messianique, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai même passé une partie de mon temps, et je continue, parce que je suis toujours impliqué dans l'action humanitaire, à lutter contre certains discours messianiques, prophétiques, avant-gardistes, dont un certain nombre d'humanitaires aiment se draper. Donc, c'est plutôt dans une démarche, disons, différente. Cela étant, je respecte parfaitement l'interprétation que Bernard Lévy peut avoir des textes, mais il y en a d'autres, on le voit tous les jours, il y en a bien d'autres. Donc, on peut pas dire que être juif, c'est cela. C'est être juif, selon Bernard-Henri Lévy, lire Jonas, selon Bernard-Henri Lévy, c'est faire ceci ou cela. Mais, moi, je ne crois pas qu'il faille se réclamer de l'Ancien Testament ou du Talmud pour éprouver de la compassion ou avoir envie de manifester un acte de solidarité. Ceux-ci ont existé bien avant, ce sont des données plutôt anthropologiques que culturelles, me semble-t-il. Moi, je ne sais pas exactement ce qui me guide, on est toujours assez opaque à ses propres motivations. Enfin, je ne crois pas lire en moi comme dans un livre, je ne suis pas transparent
tous
moi-même.
Quand même, René Bormann, formé à l'intérieur d'une culture, alors oui, personne n'est obligé mais de se réclamer du Talmud, mais vous-même, ce sont aussi des livres que vous avez lus ou pas lus qui ont fait bien de sûr, vous ce que vous êtes.
Mais bien sûr, et aussi une histoire familiale, et aussi l'histoire de l'Europe, enfin, bien entendu que tout cela agit, mais je ne sais pas dans quelle proportion, et finalement, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir pourquoi je fais ceci, enfin, de piocher dans mon histoire personnelle et collective, quel élément pourrait expliquer que je sois impliqué dans ceci ou dans telle ou telle affaire. Donc, non, je ne m'attends. Mais en effet, je suis. Enfin, toute ma vie, je suis, disons, entre guillemets, un médecin humanitaire. Je continue de le faire. Ça m'a apporté beaucoup de gratification, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'ouverture sur différents mondes. Et donc, j'en ai été pleinement récompensé. Mais je ne suis pas dans un dévouement, un sacrifice ou une mission quelconque.
Bernard Lévy, pour finir.
Moi, je ne suis pas non plus dans le dévouement ni dans le sacrifice, mais vous savez, ça vous arrivera peut-être un jour. Il y a un moment où, en effet, on a envie de voir un peu plus clair dans l'obscur de ce que l'on est. C'est vrai que ça ne m'a jamais beaucoup intéressé jusqu'à ce livre. Et dans ce livre, en effet, je me suis arrêté toutes ces dernières années. Et dans ce que j'ai pu tenter depuis une trentaine d'années, il y a de l'histoire familiale, c'est vrai. Mon père, famille, etc. Il y a des grands écrivains dont le modèle m'a guidé. Quand je suis parti au Bangladesh il y a 40 ans, c'était clairement André Malraux. Et il y a aussi, je dis bien aussi, cette sagesse biblique ou talmudique qui m'habitait probablement à mon insu et un peu moins à mon insu depuis ce livre.
Merci Bernard Lévy, merci René Bormann. Je rappelle Bernard Lévy le titre de votre livre, L'esprit du judaïsme. Ce livre est publié aux éditions Grasset. Le Musée d'art et d'histoire du judaïsme et la BNF organisent les jeudis 10, vendredi 11 et samedi 12 mars un colloque qui s'inscrit un peu dans la suite de notre discussion. Antisémitisme en France, 19e, 21e siècle. Vous trouverez sur notre site le lien pour les informations et réservations. Les références bibliographiques également de l'émission sont sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable mille et une nuits. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre sur François Mitterrand. Mes invités seront Michel Vinoc et Éric Roussel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Manon Houssin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, belle-mère, figure sociale, mythe littéraire, avec Annie Kripa.